difficile de dire, regarde bien.
Je suis toujours avec Jean-Marie Tixier, qui m'a avoué qu'il est en Algérie. Donc du coup, je l'accapare encore un petit moment. Alors parlez-moi à la fois des années que vous avez passées en Algérie. Vous y êtes retourné après de 79...
Non, 77 à 80.
70 à 80 pour enseigner à Alger,
oui, à Sciences Po. Oui.
Donc, et vous avez écrit sur justement l'Algérie, oui, avec des facettes qu'on ne connaît pas forcément sur le fait que certains pieds noirs soient restés en Algérie après 62.
Ah oui, oui, ça c'est un des mythes fondateurs de la construction d'une identité pieds noirs, c'est de penser que tous les pieds noirs ont quitté en 62 l'Algérie. Une partie a quitté avant 62, les plus malins, ceux qui sont venus investir dans les châteaux dans le Bordelais, par exemple, ils ne sont pas venus avec une valise une main devant, une main derrière, ils sont venus avec une valise pleine de billets et racheter un château. Et puis, il y en a 200 000 à peu près, donc quand même 20%, c'est pas rien comme signification, qui sont restés. Et ça questionne, ça pose deux questions fondamentales. La première, c'est pourquoi ils sont restés, pourquoi ils ne sont pas partis. Il n'y a pas eu une terreur terrible qui les a tous chassés.
Contrairement à ce qu'on voit habituellement dans les films, par exemple.
Oui, même si ça a été le cas. Moi, je suis d'Oran, et donc on a vécu le 5 juillet les massacres de pieds noirs à Oran. À la suite de quoi, beaucoup dans mon quartier qui avaient décidé de rester sont partis. Donc c'était un signe fort. Et c'est première question, pourquoi ils sont restés. Deuxième question, pourquoi ils ont fini par partir. Il y a eu très très peu de pieds noirs qui étaient dans les années, lors de la décennie tragique, il n'y en avait plus beaucoup, et ils ont été tués certains. Donc les derniers ont été tués par le GIA, si on peut dire, hein, comme le libraire de la rue d'Alger qui tenait une librairie depuis l'indépendance et qui a été assassiné dans sa librairie. Voilà, donc ces deux questions sont importantes. Et peut-être pour y répondre, alors moi je suis retourné.
Pour enseigner ?
Pour enseigner à l'Institut des sciences politiques d'Alger. Et j'y ai enseigné 4 ans, entre 77 et 1981.
Entre Boumédienne et Chadli.
Entre la mort de Boumédienne et l'arrivée de Chadli. C'était une période très heureuse pour moi. Et aujourd'hui, malheureusement, rétrospectivement, on dit que c'est aussi une période très heureuse, même s'il y avait beaucoup de problèmes. Et si on pouvait, sans être très grand clair, s'apercevoir que ça allait partir. Alors, j'ai écrit un article qui est dans le livre, en 1979, en disant ça va péter. Simplement, je n'imaginais jamais que ça prendrait cette forme.
Hein, avec la décennie des massacres.
Tragique, et cette forme islamiste. Moi, je pensais, j'avais repris le mot de Ben Midi en disant mettez la révolution dans la rue et le peuple va la reprendre. C'était très, très lyrique. Le problème, c'est que c'était une contre-révolution, si on peut dire, une révolution obscurantiste qui a été mise en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est un grand enseignement. Mais voilà les deux questions qui restent toujours, qui sont pas... Il y a des historiens qui s'emparent de ces questions et qui y travaillent. Hein, c'est intéressant d'y répondre. Mais des deux côtés, on n'a pas intérêt à y répondre. En France, ça constitue des pieds noirs en tant qu'entité. En Algérie, ça permet de ne pas se questionner sur qu'est-ce qu'on a mis en place comme société pour que les gens qui avaient envie d'y rester se sont sentis obligés de partir. Donc pour moi, pour chez moi, donc je peux répondre que pour moi. Mes parents étaient des instituteurs, favorables, surtout mon père, à l'indépendance. Et petit à petit, le caractère extrêmement national au sens arabo-musulman, arabo et musulman, mon père était un laïc, il n'était pas arabe, pas senti sa place. Et quant à ma mère, c'était une catholique de chez catholique, non plus. Et en plus, on lui demandait de demander la nationalité. Elle, qui était née en Algérie, sa mère était née en Algérie, sa grand-mère était née en Algérie, on lui demandait de prendre la nationalité. Elle a trouvé ça tout à fait insupportable et elle s'est barrée. Et c'est comme ça que je suis rentré en France. Et c'était aussi en 64, j'allais rentrer en seconde. Voilà, le lycée arrivait. On pensait que c'était bien de tourner la page. C'est pour ça, mais je peux répondre que pour eux. Je laisse aux historiens, aux sociologues qui feront le boulot d'essayer de comprendre globalement pourquoi les 200 000 pieds noirs ont fini par rentrer aussi.
Voilà, après l'indépendance.
Après l'indépendance. Mais malheureusement aussi, et c'est ça l'écartèlement, c'est le titre de mon livre, l'écartèlement algérien, malheureusement aussi beaucoup d'Algériens qui avaient été favorables à l'indépendance, je les retrouve en France. Mon meilleur ami de l'école primaire et qui reste un ami avec qui je continue à échanger, bien sûr. Il habite Paris parce que c'est un médecin gynécologue et qui m'a dit, moi, je préfère que mes filles soient élevées en France. Alors qu'il est évidemment favorable à l'indépendance, comme je le suis aussi. Hein. De toute façon, pour moi, le système colonial est quelque chose d'insupportable, comme pour Orwell, la Birmanie l'était. Donc, voilà. Mais il vit en France. Mais comme Mohamed Harbi, un des membres du FLN, un des grands historiens de l'Algérie, il vit en France. Il est soigné en France.
Et par rapport à votre passage en Algérie pendant 4 ans, quand vous avez enseigné, là, vous avez senti donc les prémices de ce qui allait, vous dites, exploser. Vous avez senti que ça allait perdurer ou s'exacerber comme ça ?
Non, je sentais qu'il y avait beaucoup de contradictions à l'œuvre et que ça allait péter. Ça, c'est clair. C'est écrit, on peut le lire, donc je l'ai écrit. Mais je ne pensais absolument pas que ça allait prendre cette forme. Même si on voyait arriver ce genre de choses, parce que j'ai quitté en 81, il y avait déjà des prémices de la montée de l'islamisme, parce qu'elle était à l'époque instrumentalisée par le pouvoir pour contrer toutes les revendications démocratiques, etc. Et donc on était déjà... Moi, j'ai été contrôlé à l'entrée de la fac parce que je venais comme un prof. Je venais à pied, c'était incompatible pour un prof. Un prof, ça vient en voiture, moi, je venais à pied. En plus, j'étais barbu et je suis très... Enfin, j'étais très brun. Donc un barbu brun qui arrive à pied, ça peut pas être un prof. Et donc on m'a demandé mes papiers parce qu'il y avait des mouvements islamistes qui avaient eu des bagarres avec les laïcs. Et c'était extrêmement violent. D'ailleurs la violence, elle n'a pas commencé, contrairement à ce qu'on peut dire chez les islamistes, avec le refus, l'arrêt du processus électoral. Elle était toujours à l'œuvre. Les islamistes sont toujours des violents. Et c'est avec la baramine ou l'acide dans le visage des filles qui refusaient de se voir voler qui fonctionnait. Et donc j'ai été contrôlé par un policier qui m'a demandé en arabe mes papiers. C'est une anecdote que je raconte. Et que je lui ai, comme dans la situation, j'avais compris ce qu'il me demandait. Je lui ai dit que je ne parlais pas l'arabe. Et donc, il m'a dit, avec un très bon français, « Mais si vous ne parlez pas l'arabe, monsieur, comment allons-nous comprendre ?» Ah, j'ai dit, bon, ça part sur ce ton.
Et vous maintenez toujours, disons, au fait de votre pays de naissance, en lisant la presse algérienne ?
Oui, bien sûr. Alors, je vous disais que j'étais en contact avec mes amis. J'ai plein de copains algériens avec qui je suis toujours en contact. Et effectivement, grâce à Internet, c'est un avantage inouï, je consulte la presse algérienne quotidiennement.
Al-Watan, Liberté,
Al-Watan, Le Matin, Focus Algérie. J'ai tout ça dans mes favoris. Mais je commence tout simplement d'abord par regarder le dessin de Dilem ou de Hic, qui sont toujours extraordinaires et qui me donnent à espérer, parce que je me dis, tant que Dilem est là, tant que Kamel Daoud écrit, et bien d'autres, il y a plein d'éditorialistes, je peux espérer dans mon pays, parce que c'est aussi mon pays. Voilà. Et quand on reparle d'identité, je pense que l'identité, elle est forcément multiple et qu'il y a une part algérienne dans mon identité que je ne tiens absolument pas à terre. Et je la revendique. Et la première chose qui m'a extrêmement touché, c'est le premier jour où je suis arrivé en Algérie. J'ai pris le taxi pour arriver en ville, à l'avion. Et le taxi m'a demandé si je connaissais le pays. Donc j'ai un peu hésité, puis j'ai fini par lui dire que j'étais natif et qu'il m'a dit, en passant tutoiement, c'est maintenant que tu es un rapatrié.
Voilà. Donc voilà.
Voilà, point barre.
Voilà, tout est dit.
Tout est dit.
Encore un petit mot, puisque vous vivez dans le Pays Basque, à Biarritz.
Oui.
À Biarritz, c'est pas que la villégiature et la capitale pour les surfeurs. C'est aussi...
Si, normalement, si vous voulez, Biarritz, c'est une ville complètement artificielle. C'est un village de pêcheurs qui, grâce à l'impératrice Eugénie, est devenu un centre là et qui a attiré au 19e siècle tous les riches et nobles qui venaient pour l'arrière-saison, après avoir passé l'été à Baden-Baden. Et puis ça s'est évidemment extrêmement développé. Mais donc ce village est devenu une petite ville, mais importante, mais qui fait partie d'une agglomération qui est quand même la deuxième agglomération d'Aquitaine et qui, si on continue, toutes les prévisions vont faire que ça va énormément se développer. Mais ce développement, comme partout, crée des tensions. Et on a à l'œuvre quelque chose de tout à fait nouveau, parce que quand j'étais lycéen au Biarritz, on n'en parlait pas, et aujourd'hui on a un retour, le retour du refoulé, c'est le retour identitaire qui fait que à chaque fête, on a, ça me fait sourire, voire rire, on a des danseurs basques qui viennent avec les cloches et la bille rurale, parce que le passé agricole de Biarritz, c'est quelque chose de complètement fantasmé. Mais les identités sont toujours des constructions imaginaires. C'est ce que Benedict Anderson nous a enseigné, et je crois qu'on n'en sort jamais. Et ces identités et ces imaginaires peuvent être, lorsqu'ils sont comme ça, des rétractions, peuvent être mortifères. On le voit à l'œuvre dans tout le monde. Et au Pays Basque, pour le moment, les armes se sont tues. Alhamdoulilah.
C'est un repli identitaire. Vous mentionnez que même sur l'autoroute, c'est très marqué.
Bah oui, c'est rigolo, c'est des petits trucs. Alors, quand j'étais en Kabylie, alors quand j'étais en Algérie dans les années 70, il y avait les panneaux bilingues. Et alors, les panneaux routiers bilingues. Et alors, les lettres latines autour d'Alger étaient peintes en noir pour qu'il n'y ait que les caractères arabes. Et alors, c'est un peu compliqué, mais j'avais assez vite appris à lire Alger en arabe pour me retrouver. C'est assez simple, c'est court, et ça commence par
Alif.
Voilà. Et après, quand on est en Kabylie, c'était le contraire. C'était les caractères arabes qui étaient peints en noir, et avec les caractères latins. Ça m'a fait... J'arrive au Pays Basque, c'était pareil. Il y a le truc bilingue, ça suffit pas. On ne peut pas être bilingue, c'est pas possible. C'est-à-dire bi-identitaire, c'est pas possible. Je ne suis pas espagnol, je ne suis pas français, je suis basque. C'est une connerie grave, parce qu'on est basque et français.
Voilà, donc quand vous allez vers la France, c'est pas écrit Frantia, c'est écrit...
Alors, quand on est sur l'autoroute, aujourd'hui, on a une communauté basque qui est... Enfin, qui est dirigé par des nationalistes. Donc tous les panneaux ont fait disparaître le mot Francia. Et il y a Labourdi, qui veut dire Labour, qui est le nord, la province française
du Pays Basque.
Enfin, une des trois, parce qu'il y en a trois. Il y a trois provinces. Donc on y a écrit Labourdi ou Bayona. Mais il n'y a pas écrit Francia. Francia, ça n'existe plus.
Et la météo, d'ailleurs, n'existe pas au-delà du Pays Basque.
Ah, sur la télé basque, oui. Sur la télé basque, il n'y a que le Pays Basque.
Voilà.
C'est une île, le Pays Basque.
Mais grâce à Orwell, vous placez quand même de l'espoir dans l'humanité.
Ah ben oui, je pense qu'Orwell n'était pas un pessimiste, certes, et qu'il inscrivait son écriture dans un combat qu'il entendait mener pour la défense de la common decency, et je pense que ça, c'est... Je ne bougerai pas là-dessus.
Merci Jean-Marie Texier, ça a été un plaisir.
Ben, moi aussi.
Maslama.